Du thérapeute au gourou, il n'y a qu'un pas. Toi-même, tu t'es peut-être demandé à un moment si tu n'étais pas en train d'entrer dans une secte ou de donner tout ton pouvoir à une personne en laquelle tu avais pleinement confiance. Mais peut-être aussi qu'en tant que thérapeute, parfois, tu es en train d'utiliser ton pouvoir et toi-même de prendre cette posture-là et de placer une autre personne en tant que victime. Si ce sujet t'intéresse, je te donne rendez-vous après l'introduction pour qu'on en discute et que je te nomme quelques points de vigilance que j'ai pu identifier. Je te dis à tout de suite. Je suis Rebecca Luz, exploratrice des mondes invisibles. Je crée des passerelles entre le subtil et le tangible. Je t'aide à ouvrir les portes de tes mémoires inconscientes pour que tu reprennes tes pleins pouvoirs. J'ai créé Mamaluna, une école intuitive et sensible dans laquelle j'accompagne les apprentis sorcières à activer leur magie, réveiller leur potentiel pour sortir de leur grotte et contribuer à un monde plus doux et plus conscient. Si toi aussi tu souhaites réveiller ta magie, je t'invite à écouter cet épisode qui pourra sûrement ouvrir ta conscience. J'ai déjà envie de commencer par définir le mot « gourou ». À la base, dans la tradition hindoue, ce mot n'a rien de négatif, de péjoratif, et on pourrait plutôt même dire que c'est un mot assez lumineux puisqu'il représente un maître spirituel, un mentor. Dans notre société, et je dirais aussi dans les dernières années, ce qui a pu être véhiculé comme information, c'est plutôt l'homme, alors bien sûr c'est resté au masculin, mais ça pourrait être une femme, qui dirige une secte, qui va être sous une forme de doctrine commune, qui va englober un certain nombre de personnes et les manipuler au sein de cette secte. C'est un mot qui a été souvent compliqué pour moi, dans mon chemin d'éveil et dans ma posture de thérapeute, mais finalement c'était déjà le cas en tant qu'enseignante, parce qu'il y avait déjà un abus de pouvoir qui était possible. C'est quelque chose qui a toujours été pour moi d'une extrême importance, d'être toujours vigilante à est-ce que j'ai franchi ou pas la limite. Mais à force d'être toujours dans cette peur, je me rends compte aussi, c'est peut-être ton cas, que une partie de mon pouvoir était enfermée, était emprisonnée parce que j'avais tellement peur de l'utiliser d'une façon qui pouvait nuire qu'au final je le bridais. Je le limitais. C'est important pour moi aujourd'hui de faire cet épisode parce que je crois vraiment en la magie que chacun possède et en la capacité qu'on a chacun de recontacter ce pouvoir personnel. Mais je crois aussi qu'il est très facile de le donner à quelqu'un d'autre et qu'il est très facile de le prendre. Donc j'avais vraiment à cœur de te partager ici ce que j'ai pu identifier, mais aussi tout le chemin que j'ai pu avoir et qui va sûrement continuer aussi à bouger, à évoluer, parce que au fil des rencontres, au fil des expériences, eh bien mes mots vont sûrement s'affiner ou peut-être même être transformés, c'est possible aussi. Je vais te parler du pouvoir personnel et puis ensuite je te donnerai pour moi des points de vigilance que j'ai pu identifier personnellement ou en accompagnant certaines personnes pour que tu puisses te poser des questions et toi-même te positionner par rapport à la place que tu occupes ou à celle que tu as peur d'occuper. Le pouvoir personnel, c'est quoi? On en parle beaucoup. Je dirais pour moi dans un premier temps que c'est faire ses propres choix. C'est-à-dire que lorsque je pose mon choix, lorsque je fais mon choix, il n'est pas dépendant d'une autre personne à laquelle j'aurais remis finalement une forme de, une partie de mon pouvoir, de ma capacité à décider moi-même, et cette personne devient une personne finalement qui a une autorité sur moi. Donc justement, le deuxième point pour moi du pouvoir personnel, c'est ce point où aucune personne n'a d'autorité sur moi. Je peux demander des conseils, je peux bien sûr échanger avec des personnes. Mais cette personne a une autorité sur moi à partir du moment où ce qu'elle pense est plus important que ce que moi-même, à l'intérieur de moi, je pense. Et c'est là où un des points de vigilance sera pour moi extrêmement important, si ça dit non à l'intérieur de moi et que l'autre personne me fait dire oui, alors il y a manipulation. Alors il y a prise de pouvoir, alors il y a potentiellement, si on le met dans cette case-là, un gourou dans cette personne, même si au départ, c'est aussi important de le nommer, ça part toujours d'une bonne intention. Mais à quel point cette bonne intention est bonne pour moi, bonne pour l'autre et à quel point elle me laisse dedans aussi mon libre arbitre. C'est aussi pour moi être en pleine capacité de son pouvoir personnel, être indépendant. Est-ce que je suis indépendante dans mes choix ou est-ce que mes choix sont toujours corrélés à une autre personne, à un groupe de personnes, à la validation d'une personne? Est-ce que je suis en train de faire ce choix avec toutes les parties de moi ou est-ce que je suis en train de faire ce choix en me mettant systématiquement à la place des autres? Alors quand j'ai activé mon pouvoir personnel, eh bien je suis pleinement en capacité de poser des actions claires et concrètes. Je n'ai plus peur de nuire à l'autre ou que l'autre me nuise puisque finalement je le sais à l'intérieur de moi que cette action elle part d'un espace qui est juste, d'un espace qui est juste pour moi et pour l'autre. Alors quand je dis juste, c'est pas forcément agréable pour l'autre, mais c'est juste parce que je suis en train de me respecter et je suis en train de respecter l'autre. Et je suis effectivement, cette décision m'appartient. Je ne suis pas en train de la faire en fonction de l'autre. J'ai vraiment repris ma pleine indépendance là-dedans. Peut-être qu'il y aurait d'autres choses. En tout cas, c'est les trois axes, moi, qui me sont venus. Faire mes propres choix. Ne pas être soumise à une autorité extérieure et être indépendante dans cette posture que je suis en train d'avoir. Alors, les points de vigilance, évidemment, il y en a beaucoup. Et sûrement d'ailleurs que toi-même, tu en as fait l'expérience, que ce soit du côté de la victime ou du côté du bourreau. Parce que pour moi, quand il y a une prise de pouvoir, il y a une victime, il y a un bourreau. On pourrait même, je ferais peut-être un podcast, un épisode vraiment dédié à ce triangle de Cartman qui est pour moi le cœur de tous mes enseignements, de mes accompagnements, de ma posture aussi. Il peut y avoir parfois cette posture de sauveur qui peut aussi entrer dans une forme de manipulation où on aimerait faire du bien à l'autre, mais au final, on devient un bourreau parce qu'on ne lui laisse pas son propre pouvoir décisionnaire. Alors, premier point de vigilance. Est-ce que la personne que j'ai choisie pour m'accompagner, alors là, évidemment, je parle de la thérapie, mais au final, on pourrait aussi regarder dans une relation, dans un couple, dans une relation professionnelle, lorsqu'il y a des abus d'autorité, ça arrive en fait dans tous les espaces de notre vie. Ça peut aussi arriver entre un parent et un enfant. Donc de vraiment regarder ici, moi je mets le filtre thérapeutique, mais en vrai ce serait valable dans tous les espaces de votre vie. Est-ce que cette personne est en train d'utiliser mes fragilités et d'accentuer, je dirais, mes fragilités, de mettre le point dessus, l'accent dessus, ou est-ce qu'elle est en train d'utiliser mes forces, mes potentiels, mes points de, vraiment de, mes ressources, là où je pourrais avoir un impact, là où je pourrais utiliser toutes mes capacités. Je me remets dans le contexte de la thérapie. Est-ce que mon thérapeute, mon coach, mon accompagnant, mon énergéticien est en train de sans cesse m'enfermer dans cet espace où je suis fragile et vulnérable et où du coup il aura toujours une place en tant que thérapeute pour venir m'aider, me soigner, m'accompagner, trouver des solutions? Ou est-ce que mon accompagnant, et donc dans accompagnant je vais mettre toutes les catégories de personnes qui vous soutiennent dans vos processus thérapeutiques, est-ce que mon accompagnant est en train de m'aider à mettre le doigt sur mes forces, sur mes ressources, sur ce que je peux déployer en moi, sur ce que j'appelle moi les potentiels pour que je puisse justement être autonome, ne plus avoir besoin de thérapie, ne plus avoir besoin d'être soutenue, ne plus avoir besoin d'une béquille. Ça c'est le premier point et c'est un point pour moi qui est extrêmement important parce que évidemment si je fais aujourd'hui cet épisode, c'est que moi-même je me pose régulièrement la question, je me réajuste parce que c'est vraiment pour moi le cœur de ce que je veux proposer à chaque personne qui rentre dans ma vie, de reprendre son pouvoir, d'être la créatrice, le créateur de sa vie, d'être ce magicien, cette magicienne qui va pouvoir, à partir de ce qu'il possède, de ce qu'elle possède en lui, créer la vie qui lui ressemble, qui lui fait envie, sans être limité ou soumis à une quelconque autorité. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la porte de la liberté, hein, vraiment la première porte, sur la voie de la sorcière, c'est pour moi essentiel de se défaire justement de ces postures où on a pu être victime, bourreau ou sauveur. Deuxième point de vigilance pour moi, est-ce que je suis dépendante de ce thérapeute, de cet accompagnant? Est-ce que je suis rentrée dans un schéma où, en fait, sans lui, je n'y arrive pas? Donc du coup, j'appelle... Alors j'ai vécu ça, moi, tout au début, évidemment, c'est des choses que j'ai arrêtées, mais des personnes qui m'appelaient à des heures pas possibles parce qu'elles étaient tellement en panique, tellement débordées que j'étais la seule à pouvoir les accompagner. Alors voilà, ça peut être des mails lorsqu'il y a des angoisses, des insomnies, lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on vit quelque chose de douloureux. Est-ce que cette personne est en train d'entretenir cette forme de dépendance et de répondre à ma demande urgente, de me mettre finalement dans une posture où je n'ai pas d'autre choix que de la contacter quand je dois prendre une décision, quand je me sens mal, quand je ne gère plus la situation? Ou est-ce que cette personne met à ma disposition des outils, des tips, des postures, m'aide moi-même finalement à pouvoir à chaque instant, à chaque moment, revenir en moi et essayer de m'apporter moi-même une solution, une résolution à ce que je rencontre. Alors bien sûr, quand on est dans le processus, on n'a pas encore les outils. On est en train de les acquérir, on est en train de les maîtriser. C'est normal d'avoir encore besoin de demander à la personne qui nous accompagne peut-être une validation, ou si on a un petit doute, de se repositionner. Mais c'est différent d'être en état de panique, à devoir absolument avoir une réponse, à contacter cette personne sur tous les espaces sur lesquels on pourrait la contacter, ou de faire une tentative et puis de demander à la personne, par exemple, voilà, j'ai douté à ce moment-là, j'étais pas sûre, est-ce que tu peux me repréciser ce qu'on avait vu ensemble? Pour moi, c'est très important de mettre un cadre dans lequel aussi la personne peut savoir que à tout moment c'est possible pour elle de prendre contact, mais que avant tout elle doit elle-même se mettre en mouvement, elle-même passer à l'action, elle-même repositionner sa propre posture pour ne pas tout de suite faire appel à l'autre personne. Troisième point, est-ce que sa vérité prime? Est-ce que cette personne va à tout moment essayer de vous convaincre? Est-ce qu'elle va essayer d'avoir raison, de vous faire absolument prendre le chemin qu'elle veut vous faire prendre? Je discutais, alors je me souviens plus exactement du contexte, mais bref, je discutais avec une personne qui me disait, voilà, c'est comme quand on sent dans la bouche de la personne là qu'elle attend une réponse, et en fait, tant qu'on lui a pas donné ce qu'elle attendait, eh bien, elle essaye de nous amener à cette réponse. Mais moi, je pars du principe que dans l'accompagnement, on co-crée un espace et qu'à chaque moment, tout peut se réinventer. Moi-même, ça m'arrive d'avoir une personne qui va peut-être répondre différemment de ce que j'avais pu envisager ou de ce que j'attendais. Et finalement, bah, on réinvente le point de départ. On part de là où en est la personne. On n'est pas en train d'emmener la personne là où on a envie qu'elle soit. On vient jusqu'à elle et à partir de là, on peut lui proposer des chemins, on peut lui proposer différentes alternatives, mais c'est elle qui décide. Donc vraiment de se demander, et à la fois pareil en tant que thérapeute, parce que c'est très important pour moi de le dire, est-ce que je suis en train à tout prix de vouloir emmener la personne là, ou est-ce que je suis en train de lui donner un éventail de possibles, un éventail de possibilités, et que je la laisse faire son chemin? D'ailleurs, en tant que parent, c'est pareil. Est-ce que même si je sais que ce sera bon pour mon enfant, je le laisse quand même faire son expérience et ensuite je l'accompagne dans l'analyse, dans le réajustement, parce que c'est ça aussi accompagner l'autre à grandir, c'est le laisser se tromper, c'est le laisser lui-même prendre conscience de ce qu'il est en train de vivre. Peut-être que je sais déjà, mais je sais pour moi. Et l'autre doit faire l'expérience aussi, doit faire l'expérience de la rencontre, doit faire l'expérience de la manipulation peut-être, pour ensuite réajuster son propre curseur. On ne peut pas, sous prétexte de vouloir baliser un chemin, protéger quelqu'un, on l'enferme, mais on ne lui donne pas sa liberté. Moi, je crois que dans le pouvoir personnel, j'aurais pu le mettre aussi tout à l'heure, il y a la liberté, être libre de faire ses propres choix, même s'il déplaise à quelqu'un qui m'aime profondément. Si cette personne m'aime profondément, elle va peut-être me dire qu'elle aurait envisagé un autre chemin, mais qu'elle respecte ce que je suis en train d'entreprendre. Est-ce que je peux dire non? Est-ce que je peux dire que je ne suis pas d'accord? ou est-ce que je suis en train d'avaler une vérité et qu'à ce moment-là, je n'ai pas le droit de poser ma propre vérité. Il peut s'ouvrir un échange et peut-être que dans l'échange, l'un ou l'autre va nourrir sa propre expérience. Et moi-même, combien de fois je me nourris de vos partages, c'est ce qui me permet de réajuster, de repositionner mon curseur. Et je crois que c'est ça qui va permettre au thérapeute d'évoluer, c'est de repositionner régulièrement son curseur. Quand j'étais enseignante, je repositionnais aussi régulièrement mes propositions. Je ne proposais jamais la même chose parce que chaque classe qui arrivait, même s'ils avaient la même tranche d'âge, même si les programmes étaient les mêmes, allait avoir besoin d'une autre porte d'entrée. En littérature, par exemple, j'allais changer de livre, j'allais changer de thème. Je n'allais pas à chaque fois proposer la même chose parce que chacun est différent en face. Est-ce que, quatrième point de vigilance, est-ce que je me sens dominée? Est-ce que je me sens inférieure? Alors, je vais mettre une petite nuance ici parce qu'on peut être inspiré par quelqu'un. Être inspiré, c'est avoir envie d'être dans le champ de cette personne ou d'être soi-même dans une posture équivalente ou de proposer soi-même le même type d'accompagnement. Mais est-ce que par contre, je me sens écrasée par cette personne ou est-ce que je me sens appelée par cette personne? C'est très différent, même si effectivement dans le gourou, il y a quand même quelque chose de très charismatique, de très magnétique et dans l'aura qui fait qu'on est appelé, mais qu'au final on est enfermé. Je sais que la nuance, elle est difficile, mais est-ce que je me sens à chaque fois dans la position de pouvoir dire stop ou de pouvoir dire non, ou de pouvoir partir quand j'en ai envie? Ou est-ce que je me sens attachée, liée, contrainte? On peut être contraint par un contrat, hein, mais par contre, bah on peut se dire « Ok, si je pars, je perds la somme que j'ai posée, mais ensuite cette personne-là ne va pas me suivre jusqu'à chez moi pour me demander de rester dans son espace. » Voilà, c'est là où j'entends que à quel point je suis liée, et quand il y a un contrat, il est clair dès le départ, on est en capacité l'un et l'autre de rompre le contrat. Et on sait qu'il y a des conséquences. Ça, pour moi, c'est de la responsabilité. Par contre, s'il n'y a pas de contrat et que je ne sais même pas à quel moment je peux interrompre ou comment je peux interrompre, imaginons une thérapie dans laquelle j'ose jamais m'arrêter et je reviens alors que je sens que ça me fait plus du bien. Bah là, il y a un contrat tacite qui dit que finalement, je ne peux pas m'arrêter. Donc, pour moi, les contrats sont aussi là pour nous protéger, les conditions générales d'annulation, pareil, pour protéger les deux parties dans tout espace qu'on co-crée ensemble. Et dernier point de vigilance, alors je pense qu'il y en a beaucoup, mais je veux pas non plus que l'épisode soit trop long. Est-ce que j'ai le choix à chaque instant? Le choix de participer, le choix d'arrêter. Moi, je le dis souvent, si vous avez déjà participé à mes stages, à mes transmissions, à mes accompagnements, que en fait, je vous propose, mais si à ce moment-là, je vous propose et je vous demande d'essayer pour vraiment sentir en vous si ça dit oui ou ça dit non. Parce que parfois, on a un nom qui est un nom de peur, un nom de limitation ou de résistance intérieure, de retenue aussi. Et parfois, quand on y va, en fait, on se dit waouh. Mais parfois, on y va et on le sent pas. Eh bien, on a le droit. On a le droit de revenir d'un voyage en plein milieu. On a le droit de démarrer une pratique et de dire bah là, c'est pas pour moi, de rentrer dans un rituel et de dire là, ça me convient pas ou ça me convient pas maintenant. Bien sûr que je respecte ça. Et demandez-vous si les personnes avec qui vous avez envie de travailler, que vous choisissez, respectent ça aussi. Ou est-ce qu'elles sont en train de vous marteler quelque chose et de vous obliger coûte que coûte à faire exactement ce protocole, ce rituel, cette façon de faire et que sur le chemin, vous n'avez pas votre libre arbitre. Moi, je pense que le libre arbitre est quelque chose d'essentiel dans le respect des deux. C'est-à-dire que une personne qui va me dire « bah là, écoute, je respecte ta proposition, mais je sens que dans mon corps, ça ne réagit pas. Je sens que dans mon corps, ça amène trop de peur. Je sens que j'ai atteint une limite. » Bah c'est ok, on la nomme. Peut-être que ce sera ok plus tard, peut-être jamais. Ça ne veut pas dire que moi, je vais tout transformer, mais ça ne veut pas dire que l'autre personne ne va jamais y accéder. On a le droit, chacun, d'avancer à notre rythme, mais ça veut peut-être dire aussi que la prochaine fois, je vais changer ma pratique. Parce que rien n'est figé et tout peut bouger à chaque instant. C'est là où la rencontre, pour moi, est intéressante. Elle nous permet de nous remettre en question en permanence. Et chaque personne qui vient dans mes espaces me demande de me réajuster en permanence, me demande de réviser ma posture, de réviser mon contenu, de revoir si c'est toujours aligné ou non avec moi. Et je prends beaucoup de temps. Pour moi, ce temps d'analyse, il est extrêmement important avant, après, pendant, pour régulièrement vraiment être avec le plus de justesse possible pour vous et pour moi. J'espère que cet épisode t'aura aidé pour vraiment voir où tu en es, peut-être dans tes relations, dans tes thérapies, dans tes accompagnements, peut-être aussi en tant que thérapeute. Il y a peut-être des choses qui t'ont fait tilt. C'est très important pour moi. Je crois que la posture, j'ai cette prise de conscience sur ces dernières semaines, est pour moi le cœur de ce que j'ai envie de transmettre. Au-delà des outils, c'est vraiment cette posture d'accompagnement dans laquelle il y a un respect mutuel de tous les participants, des espaces que l'on ouvre, des énergies, entités, guides, esprits avec lesquels on travaille aussi dans l'invisible. C'est quelque chose de très respectueux de toutes parts. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé, que ça a peut-être allumé des points de lumière. N'hésite pas à réagir si tu as aimé, à mettre des étoiles, un commentaire, à partager. Voilà, c'est une façon de soutenir aussi ce podcast dans lequel je prends énormément de plaisir. C'est vraiment une des plateformes sur laquelle j'adore. Je crois même que je dirais que c'est celle sur laquelle je préfère communiquer. Je me sens extrêmement dans mon élément ici. Et savoir que ça t'aide, que ça t'accompagne, avoir vos retours, c'est évidemment un cadeau très précieux que je savoure et vraiment je vous en remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain à 7h pour un nouvel épisode. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner et comme ça tu es informé dès qu'il y a un nouvel épisode sur le podcast. À très bientôt.